Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Poursuite des combats ce mardi autour de la cité de Bunagana au Nord Kivu. Les FARDC sont concentrés à Rangira alors que les rebelles du M23 sont à Kibanda. À Rutshuru centre, c'est la psychose. La RDC rejoint la communauté des États de l'Afrique orientale, comprenant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Objectif affiché, la coopération régionale fondée sur l'économie de marché. Notre invité, c'est le coordonnateur intérimaire de la Task Force, dont 5 membres sont pris en otage par les miliciens de la Codeco, Pitso Iribi, par les désavancées dans les négociations en cours pour obtenir leur libération. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masserica, Jean-Noël Mokondo est sur les manettes. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste confuse dans le groupement de Djomba. Les combats se poursuivent en ce moment autour de la cité de Bunagana. Les FARDC sont actuellement concentrés dans la localité de Rangira alors que les rebelles du M23 sont à Kibanda, localité située à environ 1 km de la position des FARDC. À retour au centre, pendant 7 ans, c'est la psychose qui gagne toute la cité selon des sources locales. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouaménia.
Les combats ont repris avec intensité cet après-midi autour des collines surplombant la cité de Bunagana où les rebelles tentent de s'emparer de la cité. Pour l'instant, les armes crépitent autour de Bunagana selon les sources dans la région et les FARDC tiennent toujours leur position à Bunagana. Selon les mêmes sources, les rebelles voulaient s'emparer aussi du groupement voisin de Busanza avec l'objectif d'attaquer les camps militaires de Pena situés près du chef-lieu du territoire. Mais ils ont été repoussés par l'armée. Les sources coutumières dans les groupements de Djomba affirment que les FARDC sont actuellement dans le village de Rangira où ils se réorganisent afin de contrer l'avancée des rebelles. La suspension du trafic routier entre Bunagana et le reste de la province a des conséquences sur le plan économique de toute la province. Cet axe d'intérêt international offre plusieurs opportunités aussi bien à la RDC qu'au pays du Comessa. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Vous venez de l'entendre. Les collines stratégiques situées au sud de Bunagana sont désormais occupées par les rebelles du M23. Selon de nombreux acteurs locaux, cette occupation rebelle donne des avantages à ces rebelles du M23 pour progresser vers les grands centres du territoire de Rutshuru. Explication de Bernard Nyangi.
Partie de la montagne volcanique de Sabine au triangle frontalier entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, en début de la semaine dernière, les rebelles du M23 ont occupé progressivement les collines de Kavangi-Kanyanja et puis Tchanzu et Runyoni, ce qui a forcé les habitants d'au moins 15 villages de la zone à fuir le milieu. Ces collines situées au sud de Bunagana donnent plus d'avantages à ces troupes rebelles, estiment nombreux acteurs du territoire de Rutshuru. D'une part, la rébellion a désormais un contrôle des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi dans cette zone, ils peuvent accéder facilement sur l'axe Kalengera-Tongo pour assurer sa connexion avec le territoire voisin de Masisi, plus à l'ouest. Il faut rappeler que Tchanzu, Runyoni et Mbuzi en particulier ont toujours été les coins de retraite et de prédilection pour les rebelles du M23 et ceux du centre d'épée de Laurent Kunda avant eux. En novembre 2013, après leur défaite à l'issue de l'opération Pomorange des FARDC, Sultani Makenga du M23 a décroché de ses collines de Runyoni, Tchanzu et Mbuzi pour fuir vers l'Ouganda avec ses 300 hommes, laissant sur place 300 tonnes d'armes lourdes et légères ainsi que des munitions qui avaient été récupérées par le gouvernement congolais. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et selon le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont été appuyés par l'armée rwandaise dans cette offensive. Le Rwanda, qui rejette ces accusations, plaide pour une enquête du mécanisme conjoint de vérification. À Goma, Sifa Maguru.
Dans un communiqué rendu public hier même, lundi 28 mars, le gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda, frontalière avec la ville de Goma, François Habitegeko, nie toute implication de l'armée rwandaise dans ces affrontements entre les FARDC et l'M23. Il déclare que les RDF ne sont en aucun cas impliqués dans les activités belligérantes à travers la RDC. Réagissant au communiqué du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu hier soir, son homologue de la province de l'Ouest du Rwanda parle de fausses accusations et conteste même les deux noms qui ont été mentionnés comme des éléments de la RDF capturés au cours des affrontements. La RDC et le Rwanda disposent d'un mécanisme de vérification dans le cadre de la CIRGEL et au niveau bilatéral pour vérifier ces allégations, a conclu ce communiqué. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Alors que les FARDC affrontent les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, le commandant second des casques bleus annonce que la MONUSCO apporte un appui aux FARDC. Arrivé ce mardi matin à Beni au Nord Kivu, le général Benoît Chavana parle d'un partage d'informations. Il ajoute qu'une base de la MONUSCO dans la zone des combats permet d'accueillir et de convoyer les personnes qui fuient les affrontements vers des secteurs plus sécurisés. Il est au micro de Joël Bofengo.
La situation est encore relativement confuse, comme toujours quand il y a des affrontements, puisqu'il est difficile de préciser les positions des uns et des autres. Et pourtant, nous commençons à avoir une vision assez claire sur place, ce qui nous permet de remplir notre mission première, qui est celle de la protection des civils. La force de l'ONU n'est pas engagée directement au combat par rapport au M23, mais, et c'est dans le cadre de son mandat, elle agit en soutien des forces de sécurité congolaises. Il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est bien sûr la protection des civils, qui est le cœur de notre mission. Et pour ce qui est de la zone des affrontements actuels, nous sommes présents sur une base importante au sud-ouest de Bunagana. Cette présence nous permet d'accueillir des populations civiles qui évidemment sont très déroutées. On a observé des mouvements de populations civiles. Nous avons déjà hier accueilli plusieurs groupes de personnes et en même temps nous apportons notre soutien au FRDC. D'abord un partage d'informations. Ensuite nous apportons un appui logistique constant depuis longtemps déjà, en apportant des moyens de transport, des moyens d'évacuation sanitaire.
Notez que dans un tweet, la MONUSCO dit avoir perdu ce mardi midi le contact avec l'un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans la zone des Tchanzu au Nord Kivu et que les causes de cette disparition ne sont pas encore connues. Des recherches sont en cours. Autre nouvelle, la chef de la MONUSCO appelle le gouvernement congolais à la mise en œuvre des stratégies globales pour s'attaquer aux causes profondes et structurelles de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Appel lancé ce mardi par visioconférence au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Bintou Keïta a informé le 15 membres de l'exécutif onusien que malgré les opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, les pertes civiles et les déplacements des populations ne cessent d'augmenter. D'autres précisions avec vous, Honoré Missengakala.
Le dernier rapport de la représentante spéciale sur la RD Congo a été présenté devant la même institution en décembre 2021. Depuis lors, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est détériorée en dépit des opérations militaires conjointes FARDC-IPDF contre les ADF, a laissé entendre la chef de la mission onusienne. En plus des représailles sanglantes contre les populations civiles au Nord Kivu et en Ituri, dont les auteurs sont ses forces ainsi que celles de la CODECO, Bintou Keïta a aussi mise en exergue la reprise alarmante ces trois derniers mois des activités du mouvement M23 au Nord Kivu. Bilan de cet activisme dans les deux provinces, près de 2300 morts enregistrés au cours du dernier trimestre en raison d'une moyenne mensuelle de 250 civils tués dans chacune d'elles, a précisé la chef de la MONUSCO. Face à cette situation, la représentante spéciale a réitéré au Conseil de sécurité son appel aux autorités congolaises pour mettre en œuvre des stratégies globales prenant en compte notamment des mesures et réformes susceptibles de s'attaquer aux causes profondes et structurelles de ces conflits.
Économie à présent. La RDC vient d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique orientale. La décision a été annoncée ce mardi lors du sommet virtuel et extraordinaire des chefs d'État de cette organisation régionale. La RDC rejoint ainsi le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Cette communauté régionale vise la coopération fondée sur l'économie de marché. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a proposé à l'occasion la création
d'un nouvel organe qui s'occupera de l'environnement, des ressources naturelles, des mines et de l'énergie. Il a suggéré que son siège soit établi ici à Kinshasa. On l'écoute.
L'admission de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est que nous célébrons aujourd'hui est sans doute l'aboutissement heureux de vos efforts personnels et l'expression d'une volonté commune des dirigeants de notre sous-région de bâtir une communauté d'hommes et de femmes solidaires et déterminés à partager un même destin. Le peuple congolais s'en réjouit et prend part par ma voix l'engagement solennel d'œuvrer de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est, notamment par l'optimisation de l'exploitation de nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Le peuple congolais, vous en saurez à jamais gré.
Pour mémoire, avant l'adhésion de la RDC, la région de l'Afrique orientale couvrait une superficie d'un million de kilomètres carrés occupée par 132 millions d'habitants. Lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, c'est l'objectif de la réunion des chefs des polices de l'Afrique de l'Est. Déclaration faite à la presse ce mardi à Kinshasa par le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice de cette organisation. Pendant 48 heures en effet, il a appelé les chefs des polices à plus de collaboration afin de mettre un terme à la criminalité transfrontalière. Les propos de Dieudonné Hamouli ont été recueillis par Paul Matendo.
Les objectifs poursuivis dans ce genre de réunion, surtout pour ce qui concerne le PCC, qui est le comité permanent de coordination, c'est la lutte contre les terroristes et surtout la lutte contre les criminalités transnationales et transfrontalières. C'est en vogue ces derniers temps, c'est à la une ces derniers temps, des histoires qui se commettent dans un pays et les criminels sont tout de suite, se retrouvent tout de suite dans l'autre pays. Alors la police doit collaborer mais dans la main pour essayer de traquer ces gens de criminels qui sont libres entre les frontières, les trafics par-ci par-là. Alors c'est l'objectif poursuivi. Donc la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, ainsi que le terrorisme. Allez tout de suite au commissariat, vous allez voir même des véhicules volés dans d'autres véhicules. Nous avons arrêté ici par le canal d'Interpol.
Sport, football. Manche, retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre le Maroc et la RDC. C'est dans quelques heures au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc. Les Congolais ont besoin d'une victoire d'un but à zéro ou d'un nul des deux buts partout pour être qualifiés. 48 ans après, soit depuis 1974 en Allemagne. Notez que ce match débutera à 20h30 heure de Kinshasa.
Actualité internationale.
Au 34e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des pourparlers significatifs selon Moscou ont eu lieu ce mardi à Istanbul en Turquie. Les évacuations des civils ont repris de plus belle. En même temps, même une frappe a touché l'administration de la ville de Mykolaiv. Il y a eu plusieurs morts. Et puis la reine Elisabeth II a fait ce mardi après-midi son grand retour devant le public après près de 6 mois à l'occasion d'une messe à Londres pour honorer la mémoire de son défunt époux, le prince Philippe. En raison des soucis de santé, la reine de 95 ans a annulé sa participation à plusieurs engagements officiels depuis qu'elle a été hospitalisée au mois d'octobre dernier.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur intérimaire de la task force dont 5 membres sont pris en otage par les miliciens de la CODECO depuis quelques mois. Pitou Iribi parlait des avancées dans les négociations pour obtenir la libération de ces otages. Il s'entretient au téléphone avec Isaac Remoyope.
Le coordonnateur intérimaire de la task force, c'est Pitou Iribi, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des avancées dans les processus de négociation pour obtenir la libération de cet otage? Car des rumeurs ont circulé le week-end qu'il serait déjà relâché et se trouverait à Bambou.
En tout cas, je demande d'abord formellement cette rumeur selon laquelle les otages sont libérés. Ils ne le sont pas. Le processus continue. Hier, il y a eu des temps, c'est Monseigneur l'évêque du diocèse de Bougne qui a été ici. Il a rencontré le chef militaire lui-même, le commandant en chef, celui qu'on appelle Rwanda. Il était accompagné de toute sa troupe. Il les a exhortés à cesser les hostilités, à libérer les otages et à s'inscrire au processus de la paix. Et après, le commandant secteur était en tournée. Et il a aussi rencontré Task Force d'abord pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi, cette même occasion lui a permis aussi de rencontrer un Rwanda qui l'a aussi appelé, invité à écouter la voix de la région. Voilà ce qui s'est passé hier. On a peut-être vu les mouvements de certains miliciens tout autour de la paroisse ici où la Task Force négocie avec eux. Alors, les gens se sont versés dans des interprétations, mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas été libérés, mais ça ne saurait attendre, le processus est en cours et nous nous approchons de plus en plus de l'objectif.
Un rassemblement des miliciens de la Codeco était observé le week-end vers Bambou. Peut-on parler déjà des processus de démobilisation de ces groupes armés, couplé avec celui des libérations d'otages?
Ça sera pratiquement le regroupement, la démobilisation, c'est la conséquence immédiate de la libération aussi des otages. Aussitôt que les otages vont être libérés, ces troupes vont évidemment se regrouper quelque part afin de commencer le processus de mobilisation. Et à ce titre d'ailleurs, il y a l'ONG FADEM qui est ici pour poursuivre justement la sensibilisation dans le cadre de processus préliminaires au processus de PDDRCS. Alors, la négociation, c'est la Task Force qui l'amène avec le groupe armé, avec CNRH à partir de Kinshasa.
Certaines opinions indiquent que plus de 1000 miliciens sont visibles autour des bambous. Est-ce toujours dans le cadre des négociations pour la libération des otages de la Task Force?
Les miliciens ne se sont pas regroupés. Les miliciens sont dans la région où ils résident. Ils ont été invités par la Task Force ici à Bambou-Mine pour discuter des modalités de libération des otages. C'est à cette occasion que l'opinion a vu un nombre plus ou moins élevé, mais ce n'est pas un midi. À ce moment où nous parlons, ils ne sont plus. Ils sont rentrés. Ils étaient ici juste pour le processus de négociation. Nous avons négocié hier et pour le moment, ils sont rentrés.
Est-ce que le gouvernement est impliqué dans ces processus de DDRCS et les moyens sont-ils déjà disponibles et quel est votre apport comme équipe de la Task Force?
C'est un des mandats aussi de la Task Force. Nous y sommes évidemment impliqués depuis l'existence de la Task Force. Mais le devoir incombe surtout à la coordination nationale du PDDRCS. Il y a déjà un travail, un début de travail qui est déjà important, qui est en train d'être fait. Et nous y mêlons évidemment. Et par rapport aux moyens, par rapport aux dispositions prises, moi j'en sais pas grand chose. C'est vrai, il y a un engouement, mais aussi il faut qu'il y ait des moyens qui doivent immédiatement suivre, parce qu'on ne va plus attendre. Si il faut encore attendre une fois, un mois, deux mois, ça va encore décourager beaucoup de volontés et les choses pourront encore en partir. Mais pour le moment, je pense que les dispositions sont prises par le PDDRCS.
C'est depuis plus de 40 jours que ces otages sont entre les mains de leurs ravisseurs. Chaque semaine, on espère à leur libération, mais à vain. L'opinion publique semble être impatiente et commence même à perdre de l'espoir. Quel message vous lancez à la population pour la rassurer?
Depuis 40 jours, nous ne dormons pas, nous nous battons jour et nuit pour convaincre ces gens à relâcher. Présentement là, nous sommes en train d'aller remettre la population à Kobo. C'était une de leurs revendications aussi. La population rentrera aujourd'hui à Kobo. Si vous remarquez bien, nous avons répondu à quelques-unes de leurs revendications, si pas la plupart. Maintenant là, nous attendons de leur côté aussi qu'ils puissent faire quoi? Rendre la sorcière en libérant les otages. L'accord des principes est déjà donné pour la libération de tous les otages. Et nous attendons ce moment où nous allons célébrer cette liberté et nous pensons que ça sera pour bientôt.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, le coordonnateur intérimaire de la Task Force, dont 5 membres sont prise en otage par les miliciens de la Codeco. Pitou Iribi parlait des avancées dans les négociations pour obtenir leur libération. Il a été joint par Isaac Remoyope. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pélékipé Lamondo, Alain Rougmouchige et Élise Tchikota qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiocapi.net.